On va commencer. Alors, donc, on m'a chargé de présenter le Michel Fény et surtout son travail. Alors, je crois que Michel Fény et ses livres, avec un certain nombre d'autres bordelais qui travaillent autour de lui, incarnent, me semble-t-il, ce que Jean-Louis Amsel incarne le contraire plutôt de ce que Jean-Louis Amsel appelle l'anthropologie poussiéreuse. C'est-à-dire que d'une part, au lieu de s'occuper des sociétés ou d'imaginer cet exotique, il préfère s'occuper de ce qu'il a sous les yeux. En second lieu, plutôt que d'avoir un regard extérieur, il affirme ce qu'il appelle l'anthropologie indigène. Et en troisième lieu, surtout, il a une démarche réactive, pourrait-on dire, et son second livre l'illustre de façon magnifique, puisque non seulement il élargit ses lieux d'enquête et il approfondit ses enquêtes antérieures, mais aussi il examine, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus original, les effets de son livre précédent sur son objet, puisque vous le savez, il enquête sur une entreprise et surtout dans une entreprise. Alors Michel Fény est docteur en anthropologie. Et donc il a choisi comme terrain d'enquête et d'expression de l'anthropologie, d'une certaine anthropologie en tout cas, l'entreprise. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il est si original et si intéressant. Mais ça, il le dira beaucoup mieux que moi.
Merci.
Décembre 2006, je me rends à la convention de lancement du plan d'action commercial 2007 de l'entreprise LP. C'est une réunion annuelle de tous les commerciaux et managers, animés par les responsables locaux, destinés à faire le bilan commercial de l'année écoulée et à lancer celle à venir. Elle se déroule dans le palais des congrès d'une grande cité balnéaire. Sur la route, des salariés conduisant des voitures LP, qui comme moi s'y rendent, me doublent. Je suis un peu nostalgique puisque le poste de chargé de développement du management commercial que j'occupe depuis un peu plus de 2 ans sera prochainement supprimé. Je vais être en reclassement, ou comme on le dit à LP, de façon plus politiquement correcte, en ressources disponibles. Je dois donc me trouver un autre poste assez rapidement. Dans cette cité balnéaire, en ce jour de décembre, il y a peu de touristes. 300 salariés environ de LP, appartenant au même territoire, sont invités à cette convention. En tant que moment fort de la vie commerciale de l'entreprise, chacun se doit d'y être présent. Arrivé devant le palais des congrès, je retire le dossier remis aux participants et constate que des militants syndicaux distribuent des tracts, évoquant notamment le commissionnement des commerciaux. Je suis surpris par leur présence, car cette population manifeste rarement son mécontentement, de façon ouverte tout du moins. Je rentre dans la grande salle dédiée à cette réunion et attends son début. Au démarrage de la convention, je suis un peu surpris du peu de salariés présents dans cette salle au vu du nombre d'invités. La suite des événements me donne l'explication.
Et non, ce n'est pas donc un roman ou une fiction, mais la narration d'un événement qui explique pourquoi j'ai choisi le titre « Asif Management » pour ce livre. C'est une réunion qui a lieu, donc, comme l'a dit Valérie, dans une cité balnéaire, avec tout le décorum de la réunion, c'est-à-dire avec un animateur professionnel, avec un humoriste qui est invité pour mettre l'ambiance. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, arrive dans la salle, donc en retard, une cinquantaine de commerciaux donc, qui entrent, s'installent en fond de salle, dos à la scène, et se mettent peu à peu à huer les intervenants. Cela dure ainsi environ 2 heures, et ce n'est que vers la fin de la réunion qu'un des responsables prend en compte le problème, mais proposer aux insoumis de quitter la salle. Voilà donc ce qui m'a donné l'idée de Asif Management, c'est-à-dire le management comme si, qui fait comme si tout allait bien, qui évitait les problèmes. Alors le terme américain, enfin le mot Asif, je l'ai choisi pour me moquer de la rhétorique managériale qui use et abuse des anglicismes. Alors avant de poursuivre sur le contenu du livre, je voudrais dire quelques mots de méthodologie, parce que la méthodologie, c'est quand même important, notamment en anthropologie. Ce livre est le fruit d'une enquête anthropologique dans près de 10 ans, menée en partie donc, dans une direction de métier appelée dans le livre la boutique LP, et dans l'entreprise publique LP. En tant qu'indigène, j'ai observé ma propre entreprise. J'ai enquêté à partir de prises de notes issues de mon observation. et accessoirement à partir d'entretiens, mais les entretiens étaient menés, donc il y a un an pile, vous voyez, auprès de managers, de commerciaux qui me connaissaient et donc m'ont pas tenu un discours convenu. J'ai complété cette enquête ALP par une observation d'un séminaire manager dans une collectivité territoriale, auquel j'ai pu participer, d'une façon un petit peu biaisée, mais j'y étais. Et enfin, par l'analyse de discours institutionnels d'une quinzaine d'entreprises ou structures de tout statut. Donc ce livre, donc ce dont je vais vous dire, ne représente pas la vérité sur le management, mais un point de vue qui est validé par l'enquête. Et ce que je veux rajouter, c'est également la grosse majorité des sources que j'utilise sont des sources de première main, à savoir, comme le dirait l'anthropologue Geertz, j'y étais. Donc après ces quelques remarques méthodologiques, nous allons poursuivre sur le contenu du livre et aborder un des éléments qui concourt au Asif Management, à savoir le discours managérial, qui va être l'objet de la première partie. Et je vais laisser la parole à Valérie.
Comme le disait l'auteur latin Horace, qui a confiance en soi conduit les autres. Agir avec courage, affronter la réalité et agir avec intégrité, se développer et développer les autres, travailler en équipe, innover, offrir de la fiabilité et enfin générer de la valeur client. L'engagement, c'est aussi assurer la convivialité du lieu de travail, générer l'enthousiasme chez les employés, créer un environnement propice aux nouvelles idées, à une plus grande autonomie, à l'esprit d'entreprise et à la responsabilisation. Les équipes engagées affichent un niveau de qualité plus élevé, obtiennent une plus grande satisfaction, une satisfaction client, sont plus productives et au bout du compte, génèrent plus de bénéfices pour la société. Certains d'entre vous connaissent ma passion pour le rugby. L'entraîneur crée les conditions de la réussite. Il élabore une stratégie de jeu, sélectionne les meilleurs joueurs, donne un rôle à chacun, leur permet de se concentrer sur le match. Mais sur le terrain, c'est l'équipe qui marque, qui transforme les essais. Le rugby illustre bien l'indispensable cohésion du groupe pour gagner. Sans confiance dans les autres, rien ne se fait. Un joueur avance avec l'enthousiasme vers l'en-but parce qu'il sait que ses coéquipiers seront là pour le soutenir, l'appuyer et recevoir ses passes. Confiance, performance, compétence, transparence, adaptation, innovation, mutualisation, implication, ambition, modernisation. Considérable, fier, formidable. Majeur, exceptionnel, meilleur. Réussir, garantir, améliorer, développer, intensifier, mobiliser, optimiser.
Donc cette intervention de Valérie exprime mieux que tout le sens de la première partie du livre, au cours de laquelle je décortique le discours managérial. Donc vous avez eu quelques extraits ici, alors extraits de documents ou de discours variés. Donc je me suis intéressé donc déjà à LP, où j'ai étudié une convention, c'est-à-dire une convention, c'est une grand-messe dans laquelle on réunit les cadres. Je me suis intéressé à un journal interne et je me suis intéressé à une charte accompagnant un plan stratégique. Parce que maintenant, les entreprises font des plans stratégiques, bien sûr, et font des chartes qui les accompagnent. Ensuite, je me suis intéressé donc, au niveau du discours d'une collectivité territoriale grâce à l'observation d'un séminaire de managers qui concernait 300 personnes. Et enfin, je me suis intéressé aussi à une entreprise aéronautique, à travers différents documents, et enfin à 15 entreprises de tout statut. Alors, cette documentation, je l'ai obtenue essentiellement grâce à mes étudiants, en leur disant ce que j'allais en faire, et demander l'autorisation, bien sûr, de me la donner. Alors, donc, je montre dans cette partie que le langage managérial proche de la langue de bois est commun à toutes ces structures, quel que soit leur statut. Donc, comme vous avez pu le constater, ce discours est composé de mots creux, de formules à la mode, de processus rhétoriques qui sont toujours les mêmes, citations d'auteurs, métaphores, etc., comme démontré par Valérie. Les ressorts de ce discours sont toujours les mêmes. On pourrait dire que ça dégouline de positif, puisque le changement y est toujours présenté comme très favorable et ne se discutant pas. Aucune part n'est laissée au doute ou à la critique. Par ce discours, donc, les dirigeants montrent qu'ils mettent tout en place pour assurer le devenir des organisations et de leurs salariés, et ancre auprès des salariés l'idée que l'entreprise est parfaite. Alors, du coup, ça peut culpabiliser la personne qui va prendre ce discours au premier degré, peut se sentir, alors il y en a certains qui peuvent le prendre, peuvent se sentir culpabilisés et ne se sentir pas à la hauteur, puisque face à cette entreprise idéale, ils peuvent, eux, estimer qu'ils ne le sont pas. Alors, pourquoi cette ressemblance entre ces discours managériaux? Puisqu'en fait, là, j'ai fait quand même un panel d'entreprises très, très, très diverses. Alors, j'ai émis trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que tous les documents internes, généralement, sont écrits par des agences de presse, en fait, qui travaillent pour tout type d'entreprise, qu'elles soient publiques, privées, d'accord? Donc, du coup, elles reproduisent quelque part le même discours. Deuxième hypothèse, c'est les consultants qui sont présents depuis 20 ans dans toutes les entreprises publiques ou privées et qui sont aussi bien sûr porteurs de ce discours. La collectivité territoriale où j'assistais au séminaire manager, il y avait un grand cabinet de gestion qui enquêtait sur le mi-mandat. Il y en a partout, je veux dire. Et troisième explication, c'est les services communication internes qui sont de plus en plus structurés depuis une vingtaine d'années et qui sont formatés aussi par rapport à ce type de langage puisque tous les gens qui travaillent ont à peu près la même formation. Alors, ce discours, donc dans le livre, je montre comment il ancre ce oasis management, en fait, puisqu'en fait, c'est une représentation idéale de l'entreprise. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant après, bien sûr, c'est de la confronter, cette représentation idéale, aux pratiques. C'est donc l'objet de la deuxième partie.
Extrait de la méthode de vente 7 gagnants, à apprendre par cœur par les commerciaux. Monsieur X, je vous remercie d'avoir accepté le rendez-vous. Dans un premier temps, nous allons voir vos entrées et vos sorties d'argent, puis ce dont vous avez besoin pour fonctionner en toute sécurité et protéger votre famille. Vous me parlerez ensuite de vos projets et de vos avoirs gérés par LP ou par tout autre établissement. À partir de là, je serai en mesure de vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre situation. En fonction des décisions prises aujourd'hui, nous pourrons fixer d'autres rendez-vous. Notre entretien va durer à peu près 40 minutes. Cela vous convient-il, Monsieur X ? Parole d'un commercial en entretien. Au début, quand la méthode était sortie, il fallait dire les phrases au point et à la virgule près. Aujourd'hui, ils n'en sont plus trop là, et heureusement. Ils se sont rendus compte, mais ils se rendent compte toujours 2 ou 3 ans après. Parole d'un manager en entretien à propos de la méthode de vente 7 gagnants. On a cru que la méthode allait révolutionner un truc chez nous. Quand j'étais animateur, mon responsable m'avait envoyé travailler sur la méthode avec un consultant alpha. Il venait te réciter l'entretien en nous expliquant qu'en déroulant la méthode, on allait faire 20 ventes, 7 ou 8 prévoyances à monsieur, madame et les enfants. Putain, il était bon comédien. Extrait de la charte éthique de la nouvelle méthode de management Caredas. La méthode, c'est l'intelligence de l'homme. Nietzsche. Dans Caredas, il n'est nullement question de dogmatisme, mais bien de méthodes très basiques, adaptées à toutes les situations, d'agence ou de zone. Non intellectuelle, certes, mais pas pour autant non intelligente. À propos des actes de management à mener, extrait du livre. La méthode Caredas est lourde et multiplie les moments de rencontre officiels entre commerciaux et managers qui doivent mener les 8 actes suivants. Brief quotidien 15 minutes. Débrief quotidien 15 minutes. Entretien d'activité hebdomadaire 30 minutes. Accompagnement en vente hebdomadaire 1 heure. Accompagnement en phoning hebdomadaire 2h à 2h30. Développement d'expertise mensuelle 1 heure. Entretien de performance mensuel, 1 heure. Réunion commerciale hebdomadaire de l'équipe, 1 heure. Pour chacun de ces actes, les managers disposent de fiches techniques qui leur indiquent étape par étape la façon de les mener.
Merci. La deuxième partie du livre, donc consacrée aux pratiques managériales, tente de montrer que dire ne suffit pas à faire, notamment par rapport en matière d'autonomie, d'initiative et de responsabilisation, puisque ce sont des mots qui sont souvent soulignés dans le discours en disant que les gens sont de plus en plus autonomes, responsables. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est au contraire comment les gens l'étaient de moins en moins, notamment où je décortique, alors je crois que vous avez vu des extraits, des méthodes qui sont instaurées, donc qui sont vendues par des consultants, avec des scripts à respecter et à respecter très, très scrupuleusement, sinon vous faites engueuler, notamment dans les premiers temps, on est d'accord. Après, effectivement, au bout d'un moment, comme on voit que ça devient excessif, on ne le fait plus, d'accord. Et du coup, l'autonomie, l'initiative qui est mise en avant, en fait, on s'aperçoit qu'elle est très limitée, en fait. C'est-à-dire que les gens, effectivement, ils ont une marge de manœuvre, mais très, très, très restreinte, en fait. Et malgré la création de tous ces outils enfermants, les responsables font comme si l'autonomie, l'initiative, la responsabilité existaient vraiment, alors qu'en fait, elle n'existe pas. Alors j'explique dans le livre comment, en fait, le manager, il a des choses à lire, en fait, puisqu'on lui demande de lire précisément. Pour tous les actes de management, il avait des scripts précis à respecter. Alors après, on verra, puisque ça va être l'objet de la partie suivante, c'est comment, face à ça, comment je me comporte, c'est-à-dire est-ce que j'applique, est-ce que j'applique pas, qu'est-ce que j'en fais, d'accord ? Alors, donc justement, après avoir... Alors, je développe effectivement dans le livre toutes les méthodes et je montre leur caractère ridicule par l'excès, parce que c'est vraiment... C'est excessif, en fait. Tout est vraiment cadré. Et d'un autre côté, on mettra en avant l'autonomie. C'est-à-dire, on dit aux gens que c'est autonome, mais en fait, ils peuvent pas l'être, en fait, je veux dire. Ils ne sont pas vraiment. Voilà. Donc, tout ça, c'est développé largement dans le livre. Et dans la troisième partie, donc, je vais m'intéresser aux conséquences de ce oisif management, puisque l'oisif management, c'est la conséquence, en fait, d'un écrit qui présente une entreprise idéale et d'une pratique en décalage par rapport à cette entreprise idéale. Donc, la troisième partie est consacrée donc aux conséquences du oisif management.
Extrait de parole recueilli lors d'un entretien d'un commercial qui a quitté l'entreprise. Moi, mon conjoint, il n'a pas compris. C'est quand le toubib m'a arrêté 15 jours que là, il a commencé à changer. Avant, il disait que c'était moi, que j'avais mauvais caractère. À un moment donné, vous vous trouvez seul. J'ai bien fait de partir. Le docteur me l'a dit. Il faut trouver une solution car vous êtes mal barré là. Quand vous racontez ça, personne ne vous croit. Et quand ça vous arrive à vous, les autres collègues ne bronchent pas. C'est parce qu'ils ne répondent pas bien. Et après, quand ça leur tombe dessus, on s'aperçoit qu'on est plusieurs. Quand on vous dit que vous êtes nul, vous n'allez pas le clamer aux autres. Vous faites tout pour être bon. Vous faites 50 heures par semaine. Vous faites tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on vous demande de faire. Le manager n'en tient pas compte. Extrait d'un courriel envoyé à des managers par leur directeur. Coucou, voilà la campagne 2. La chasse aux agences, aux commerciaux est ouverte, sans quota, jusqu'à épuisement rapide des espèces qui ne sont pas protégées. Lundi prochain, on se focalisera sur l'activité S et S+1 des commerciaux. Et lundi en 15, sur l'activité et sur l'extermination des vendeurs à zéro. Bon week-end ! Parole d'un manager recueilli lors d'un entretien. Aujourd'hui, on nous demande toujours l'agenda. Je fais à mon responsable de zone un bel agenda, avec tous les actes managériaux dedans, sur 2 semaines, et je lui envoie. Comme ça, tout le monde est tranquille.
Merci. Donc tout est en place pour bien fonctionner, le discours que j'ai développé dans la première partie, les méthodes dans la deuxième, les salariés n'en ont plus qu'à mettre en œuvre. Par le biais d'injonctions, donc les dirigeants exigent toujours plus d'eux. La démonstration faite précédemment montre que répondre à toutes ces injonctions demeure impossible. Et du coup, certains salariés ont le sentiment d'être pas forcément à la hauteur. Donc dans cette dernière partie, je m'intéresse à quelles sont les causes du mal-être. Comment les salariés gèrent-ils les incohérences de ce management ? Alors, on a vu quelques exemples dans les extraits. Et que font les dirigeants pour les rendre tout de même acceptables par le plus grand nombre ? Donc, je vais développer un peu ces 3 points. Donc, les causes du mal-être. Alors, j'en ai dégagé 8 qui peuvent se conjuguer. La première, c'est l'entreprise présentée comme idéale. Je ne vais pas revenir dessus. C'est-à-dire, le fait de présenter l'entreprise idéale, ça peut concourir au fait que les gens se sentent mal parce qu'ils vont croire à ce qui est écrit, en fait. Donc ça, ce serait la première cause. La deuxième, c'est l'impossibilité pour le salarié d'être parfait. Alors je l'explique dans le livre. On multiplie les indicateurs de mesure. Par exemple, j'explique un commercial qui est évalué sur 32 critères. Comment voulez-vous qu'il réponde aux 32 critères ? C'est impossible, d'accord ? D'autant qu'à l'obligation de résultat, On en rajoute ce que j'appelle l'obligation de moyens. C'est-à-dire l'obligation de résultat pour un commercial, c'est de faire du chiffre, ça peut se comprendre. L'obligation de moyens, ça va être, de, par exemple, de recevoir X clients par jour, et pas plus, de faire des entretiens d'une heure et pas plus, de respecter la méthode à la lettre, ce que vous avez lu Valérie tout à l'heure. C'est tout ça, l'obligation de moyens. Et parfois, l'obligation de moyens, elle est plus lourde que l'obligation de résultat, voyez. Et bon, l'anthropologue, lui, peut mettre des mots derrière ça. Je veux dire, le gars qui le vit au quotidien, il ne met pas les mots derrière. On est d'accord. Donc ça, ce serait ma deuxième cause. La troisième, des salariés de plus en plus surveillés. C'est-à-dire, face aux mots autonomie et consort, on s'aperçoit que les tableaux de suivi et de reporting, il y en a pléthore. Sur mon dernier emploi, moi, par exemple, je passais 2 jours sur le terrain, 1 jour à remplir les tableaux. Voilà. Et le commercial, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Je pense qu'il y a plein de gens ici qui doivent connaître cette particularité. Donc, également, pourquoi il est de plus en plus surveillé ? Parce qu'en fait, finalement, les nouvelles technologies accroissent la surveillance. Alors, pourquoi ? Alors, bien sûr, le cadre est doté d'ordinateurs portables, de téléphones portables avec mail. Le problème, c'est qu'il peut être joint n'importe quand. Alors, il y a un manager qui m'expliquait, donc il travaillait à Arcachon, il rentrait sur Bordeaux par le train, et en fait, son responsable appelait le soir à 7h et il lui disait « je te dérange pas ». Il ne pouvait pas lui dire non. Voilà. Donc, c'est une troisième cause. C'est-à-dire que la personne, du coup, il n'y a plus de limite entre vie professionnelle et vie privée, presque. Hein, le fait de... Donc, ce serait la troisième cause. La quatrième, c'est la promotion par les dirigeants de la culture du top. C'est-à-dire que faire ses objectifs, ce n'est pas suffisant, il faut les dépasser. D'accord ? Et quelque part, envahi par ce discours idéologique, celui qui n'y arrive pas, ben, il peut se trouver en moment de difficulté, ben, il peut avoir l'impression que ce n'est pas lui qui est pas à la hauteur, en fait. Cinquième cause, ce serait la culpabilisation insidieuse, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire avant, entreprise idéale, culture du top, contrôle incessant, peuvent induire chez le salarié le message suivant « sois parfait ». Et face à l'impossibilité de l'être, puisque j'ai vu, que je l'ai expliqué tout à l'heure, avec tous les objectifs qu'il y a, il ne peut pas forcément répondre à tout, il peut se sentir coupable de ce qui lui arrive, accroissant ainsi son mal-être au travail. Sixième raison, ce serait l'absence de distance dans les relations hiérarchiques. Ça veut dire tout ça, c'est dit de façon cool. C'est-à-dire tout le monde s'embrasse, s'appelle par le prénom, se tutoie. On a l'impression qu'il n'y a plus de barrières hiérarchiques, mais à un moment donné, il y en a des barrières hiérarchiques. Et on tend vers ce que j'appelle un management par l'affectif. Et donc, sixième cause du mal-être, donc c'est ce management par l'affectif qui, en fait, a pour conséquence ce que j'appelle une remise en cause de l'identité du salarié plutôt que de son comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas dire à la personne ben, « ce dossier n'est pas complet, il faut que tu le revoies ». On va lui dire « t'es nul ». Voilà. D'accord ? Donc, puisqu'on est dans de l'affectif, en fait. Donc, on va aussi faire des remarques. Alors, bien entendu, le manager qui le fait, il est pas... Bon, il ne pose pas, comme je suis en train de le faire, comportement affectif, enfin, comportement identité, on est d'accord. Hein. C'est moi qui le dis comme ça, avec mes mots, d'accord ? Mais ça peut être aussi une des causes, si vous voulez. Et la huitième cause que j'ai identifiée, c'est la disparition des solidarités. C'est-à-dire qu'avant, alors ça ne se passait pas toujours, mais le salarié, lorsqu'il avait des problèmes, il pouvait parfois en parler à ses collègues. Maintenant, notamment lorsqu'on est cadre, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que le salaire est individualisé. C'est-à-dire que vous avez une part variable de votre salaire, ou vous avez une augmentation annuelle en fonction de vos résultats, entre guillemets. Vous avez également une promotion en fonction de vos résultats. Donc, du coup, on n'a pas envie de se mettre en difficulté, si on est en difficulté, de le dire à d'autres, si vous voulez, parce qu'on peut y voir un danger. Donc, voilà. Donc, c'est cet ensemble de causes. Alors, j'utilise pas, moi, des mots tels que risques psychosociaux, stress professionnel. C'est pas mes mots. Pour moi, c'est des catégories trop amples. J'utilise le mot mal-être, parce que c'est un mal qui touche à l'être, d'accord ? Et puis, j'essaye de dégager les causes à partir des mots de tout ce que j'ai observé. Alors, justement, face à ces mal... Donc, c'est ce qui peut expliquer donc, que certains salariés puissent être mal au travail, dépressifs, voire aller jusqu'à des comportements suicidaires. Sachant qu'il est clair que les personnes impliquées... Alors, le premier texte qu'a lu Valérie, là, d'Adam, donc, qui est parti, en fait, c'est quelqu'un qui était très impliqué, bien sûr. À la limite, quelqu'un qui s'en fout, bon, ben, il le prendra mieux. Alors, justement, j'ai essayé de définir quelles sont les stratégies élaborées par les salariés. Alors, par rapport à ce Asif Management, alors ça peut être soit pour le, on va voir, j'en dégage 4, ça peut être soit pour le conforter, c'est-à-dire ne pas le remettre en cause, je vais en donner des exemples, soit pour le contester, le détourner, faire semblant, ou le fuir, d'accord ? Alors, le conforter, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, face à ce management, ne veut pas se poser de questions. Pourquoi il ne veut pas s'en poser ? Parce que s'il s'en pose, il va peut-être être mal, lui, vous voyez ? Et donc, du coup, il va appliquer... Alors ça me fait penser à des, bon ça c'est pas de l'anthropo mais peu importe, des travaux de Milgram sur la soumission à l'autorité qui avait travaillé sur après la Seconde Guerre mondiale, c'est pourquoi les nazis avaient obéi en fait. En fait, le fait de ne pas te poser de questions, la personne ne se pose pas de questions. Parce que dès que je m'en pose, quelque part, je vais être mal, on est d'accord, je me mets en danger. Et alors, il y a pire, c'est-à-dire, il y a ceux qui ne se posent pas de questions, mais qui vont au-delà, c'est-à-dire qui en rajoutent. C'est ce que j'appelle les intégristes. Alors, l'extermination des vendeurs à zéro, c'est un exemple, puisque c'est réel. Alors, c'est un pauvre gars, je veux dire, il s'est pas rendu compte, il a écrit cette espèce d'âne. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû l'écrire, je veux dire, s'il n'avait pas écrit ça, parce qu'il y en a plein qui le disent ça, je veux dire, mais ils ne l'écrivent pas. Mais lui, il a fait un mail, parce que le mail, ce n'est pas considéré comme un écrit, c'est presque de l'oral. Et bien entendu, la presse s'en est emparée, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables de l'entreprise, ils l'ont désavoué, bien sûr. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple de négriste, alors c'est le crocodile d'or. Alors c'est un manager, alors ça se passait ici, vous voyez, c'est pas très loin. Donc c'est un responsable de zone, donc il y a 12 managers et qui les réunit donc tous les mois, comme on lui demande. Et donc il leur fait passer des quiz, fait vérification des connaissances. Et puis au moment de la réunion, il arrête et il dit c'est le temps du crocodile. C'est-à-dire dans son bureau, il a un crocodile en plastique. Et donc il écrit le nom de manager, il le suspend au cou du crocodile. Et le nom va rester un mois, et en fait, c'est le mauvais manager. Donc, il stigmatise cette personne devant ses collègues. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un intégriste. Et troisième exemple, c'est la personne. Alors, c'est l'exemple de la personne qui parle, parce que sa manager n'arrête pas de lui traiter de nul. Ah, bien sûr, pas en tête à tête, face à ses collègues. D'accord ? Et donc, c'est quelqu'un aussi qui est intégriste, peut-être elle sans le savoir, mais elle est intégriste. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le premier. Donc ça c'est toute une série de personnes qui vont conforter le système en fait, d'accord ? Alors après, ce qui ne le conforte pas, il y a trois possibilités. Alors l'affrontement. Alors l'affrontement direct, il est impossible quasiment. Alors le premier exemple que j'ai cité, c'est-à-dire les commerciaux qui se révoltent là, c'était collectif, d'accord ? Mais l'affrontement individuel, il n'existe quasiment plus. Alors pourquoi il n'existe plus ? Mais parce qu'en fait, les gens ont peur par rapport au salaire, puisqu'il y a une individualisation des choses, donc il faut bien bouffer en fait. Hein, donc si je la ramène trop. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je ne peux pas affronter directement, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur mon terrain pendant que j'observais? L'être anonyme, c'est-à-dire la lâcheté qui remplace l'affrontement direct. C'est-à-dire comme je ne peux pas dire les choses directement, eh bien, je fais une lettre anonyme, quelqu'un fait une lettre anonyme, envoyée à la directrice donc, pour mettre en cause son management. Alors là, affolement général, bien sûr. Alors si vous voulez, quand il y a un problème comme ça, il y a un affolement pendant 1-2 mois, puis après on recommence, d'accord? Affolement, voilà. Alors pourquoi on fait ça? Parce que comme je ne peux pas m'exprimer, c'est un peu comme des dictatures, si vous voulez, je ne peux pas m'exprimer, du coup, je fais des choses par-dessous. Alors, troisième stratégie, c'est détourner ou faire semblant. C'est-à-dire que là, en fait, je vais montrer que je vais produire des indicateurs pour être tranquille, parce que si je ne produis pas les indicateurs, je vais me faire engueuler. Donc, je vais produire des indicateurs pour être tranquille, mais en fait, je vais aménager, on va dire. D'accord? Alors, ça va être quoi? Par exemple, ça va être le commercial. Le jour où il est accompagné, il va appliquer la méthode à la lettre. Et puis, le jour où il est tout seul, il va un petit peu l'adapter. D'accord? Le manager, on lui demande de faire... Alors, vous avez vu les actes 8, je ne sais plus combien il y en avait. Enfin, plutôt que de faire un brief tous les jours, il va le faire tous les 3 jours. D'accord? Il va adapter, c'est-à-dire il va protéger ses équipes. Mais ça lui coûte, ça. D'accord? Alors, j'ai reçu un mail hier donc, de quelqu'un que j'avais interviewé. Là. Bon, c'est un mail. Bon, je voulais un extrait. Parce que c'est fort, enfin, il y a plein de choses dedans, mais bon. Il me dit, ma plus grande fierté est d'avoir à mon petit niveau temporisé les grandes manœuvres, d'avoir fait passer les pilules en douceur, comme j'ai pu, d'essayer de faire preuve d'intelligence en toutes circonstances. C'est ça, en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez comment je protège mes équipes en faisant semblant, en donnant des indicateurs. C'est celui, en fait, celui qui m'écrit ça, c'est celui qui a envoyé l'agenda fictif, en fait, qui a envoyé l'agenda en mettant tous les actes, mais en fait, qui ne les faisait pas, je veux dire. Hein, vous voyez, voilà, donc c'est celui-là. Et il dit, mon regret est que quelquefois, je n'ai pas eu le recul nécessaire, mais c'est difficile, dans ces contextes mouvants, de tenir cette position. Voilà. Donc, et après, juste un autre passage, il dit, ce qui me reste de mon passage, parce qu'il n'est plus là, c'est que ces mêmes dirigeants n'ont aucune idée de la qualité et de la force des gens du terrain, car il faut être costaud pour subir et ingurgiter les différentes mesures, bien souvent contradictoires, qui descendent et bouleversent le quotidien professionnel, amical et personnel des employés de base. Je suis presque surpris du peu de cas de tentatives de suicide ou de réussite de suicide autour de moi lorsque j'étais en fonction. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est déjà. Alors vous voyez que pour tenir cette position de faire semblant, je veux dire, il faut être quand même légèrement costaud. D'accord ? C'est sûr que la première position, elle est plus facile, même si des fois les gens ne sont peut-être pas bien intérieurement, mais elle est quand même plus facile. Alors, dernière stratégie, c'est fuir. C'est partir, en fait. Alors là, il y a plusieurs stratégies. Soit je m'en vais carrément, c'est-à-dire je quitte l'entreprise. Soit je profite de quelque chose, c'est-à-dire la personne qui parle, qui est partie, en fait, c'est quelqu'un qui est parti à la retraite à 50 ans, mère, 3 enfants. Elle n'avait vraiment pas envie de partir, je veux dire. Mais elle ne pouvait pas faire autre chose. Elle était usée. Elle pouvait pas demander une mobilité géographique. C'était sa seule voie d'issue, d'accord. Et 2 ans après, quand je l'interview, quand même, à des moments de l'interview, elle est en pleurs presque. Donc 2 ans après, je veux dire. Donc c'est quand même, c'est fort, je veux dire. Enfin, là, je ne m'y attendais pas, si vous voulez. Voyez. Donc, voilà. Donc ça, c'est une fuite. Alors après, ça peut être demander une mobilité géographique, ça peut être une fuite. Demander du temps partiel, ça peut être une fuite. Souffler d'une façon ou d'une autre, d'accord. Voilà. Donc c'est les 4 stratégies, en fait, possibles. Alors, à partir de ces constats, donc je viens de faire cause du mal-être, stratégie des salariés. Comment ça se fait que le système continue à fonctionner? Alors, la question qu'on pourrait se poser. Alors, puisque hormis les périodes de crise, c'est-à-dire le suicide, où là effectivement, on remet en question, on se pose des questions. Qu'on fait à LP en ce moment, puisque le grand dialogue, vous voyez, il y a eu des suicides. Alors, on ne peut pas faire simple, c'est-à-dire on peut pas faire un dialogue. Non, on fait un grand dialogue avec un G majuscule et un D majuscule, je veux dire. Vous voyez, c'est quand même c'est intéressant, vous voyez, d'étudier au niveau, rien que ça, la majuscule, c'est pas rien. Hein. Voilà. Donc, le reste du temps, le système, il fonctionne malgré les incohérences. Alors, je l'explique, moi, en partie, par le goût du pouvoir des salariés, en fait, qui peuvent être compensés pécuniairement ou en promotion. Et par la façon dont les dirigeants s'en saisissent, en jouant notamment sur les phénomènes de courtisans. Alors je donne dans le livre des quelques exemples pitoyables de signes de pouvoir pour certains. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de poste à un moment donné, ça peut arriver, et bien il se fait faire des cartes de visite et il fait marquer directeur de mission. Parce que chargé de mission, c'est pas... Voilà, enfin, je donne quelques exemples enfin, pitoyables, je dirais. Voilà. Alors, en conclusion, j'analyse. Alors, comme Bernard Trémont a dit, je ne vais pas le développer ici, mais dans la 4e partie du livre, ce que j'appelle les coulisses de l'enquête, c'est-à-dire j'aborde notamment les difficultés que peut rencontrer un anthropologue lorsqu'il publie une vision critique de l'entreprise. Et je reviens à ce sujet sur les conséquences de la publication de mon premier livre, où là aussi, il y a eu des attitudes pitoyables de certains dirigeants, c'est-à-dire le fait d'essayer de le récupérer pour l'envoyer directement au siège d'entreprise. Enfin, c'est vraiment des attitudes qui ne sont pas dignes de responsables. Et je donne enfin, en conclusion de mon livre, une grille de lecture permettant aux salariés, à partir de mes 2 ouvrages, là, par contre, de mieux comprendre les relations de travail et de se protéger. Donc, c'est une grille en 7 points. Alors, c'est une grille également que j'utilise, donc une grille de réflexion que je vais utiliser donc, au sein de l'association Anthropologia, puisque j'anime un groupe de travail donc, de réflexion sur le travail et ses pratiques. Et donc, j'utilise cette grille-là. Alors, je ferai passer d'ailleurs tout à l'heure une feuille s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer au groupe qui va démarrer en janvier du prochain 2013. Pardon, voilà. Voilà, alors ma contribution n'est bien sûr qu'une goutte d'eau. Voyez, alors ce qui m'intéresse, c'est par exemple ce genre de retour de mail. Enfin, c'est important pour moi, si vous voulez. Ça veut dire, enfin, voilà. Donc, moi, c'est une goutte d'eau. Mais plus de personnes sont sensibilisées, c'est pour ça que j'écris aussi, hein, mieux cela permettra de les protéger. Et c'est pour ça aussi que j'enseigne en école de commerce des cours de management. Je parle aussi du mal-être, je veux dire, puisque c'est des futurs managers. D'accord ? Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je voudrais remercier Valérie. Je vous demanderai de l'applaudir pour sa participation. Merci.